Dear fellow feminists,
I'm here for all of the witches.
Pourquoi le féminisme?
On n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire.
Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes.
Oh, je t'avais dit, elles en veulent au mec.
Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur.
On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné.
Il y a un problème avec monsieur.
Non, il n'y a pas de problème.
Vous aussi, on se lève et on se bat.
Pas du clito.
Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse.
Bim, c'est encore la faute du patriarcat.
Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute.
Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Marion, comment ça va?
Ça va très bien, merci. Surtout après ce beau week-end de manifestation dans toute la France contre les VSS.
Ouais, une manif qui faisait du bien, surtout dans ce contexte de sexisme, de racisme, de transphobie généralisée et d'élection de Trump. Mais on va continuer à se battre, à se lever et à se casser. On se retrouve ce soir pour notre troisième émission de la saison d'On se lève et on se casse. Et aujourd'hui, on va parler littérature, mais une littérature un peu particulière, puisqu'on va parler de littérature jeunesse.
Alors, avec notre invité, on va explorer l'importance de la littérature jeunesse dans l'éducation des enfants et dans leur développement. On va aimer avoir dans nos livres des personnages racisés, queer, trans et antisexistes, et ceux de la maternelle. Et on va parler de l'impact des représentations positives et diversifiées dans la déconstruction des stéréotypes de genre. Bref, tout ce qu'on aime.
Notre invitée ce soir est directrice de collection au sein de la maison d'édition indépendante et inclusive On ne compte pas pour du beurre. Et cette collection est intitulée J'aimerais t'y voir, une collection qui propose un état des recherches et pratiques en cours autour des représentations en littérature jeunesse. Bonsoir Sarah Guélam.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
C'est le rapport du HCE de 2024 qui le dit. Donc le HCE, c'est le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Le sexisme commence à la maison, à l'école, comme le racisme d'ailleurs, et les LGBTQIA-phobies. Donc c'est à ces racines qu'il faut s'attaquer. Et pour ça, il faut commencer par ce qu'on raconte aux enfants. Le soir, mais aussi à l'école, à leurs imaginaires créés par les histoires qu'on leur raconte. Où sont les familles homoparentales dans les histoires? Comment est-ce qu'on représente les enfants transgenres dans les ouvrages jeunesse? Comment bien représenter les enfants en les libérant des stéréotypes genrés et racistes qui nous étreignent au quotidien? Mais avant tout ça, Sarah, expliquez-nous en quoi la littérature jeunesse est importante au développement de l'enfant. Vaste question.
Alors, pourquoi on s'est intéressé très vite aux représentations, et plus particulièrement dans les albums jeunesse, donc ces livres dédiés aux 0-6 ans? Parce que c'est l'âge auquel on intègre les normes. C'est à ce moment-là qu'on intègre les normes et qu'on construit sa vision du monde. Donc bien sûr que c'est vital quelles sont les représentations qu'on met à disposition des enfants, notamment dans la littérature jeunesse, parce que c'est à cet âge-là qu'ils vont se construire, eux, avec le rapport au monde, le monde tel qu'ils le conçoivent. Donc la littérature jeunesse, c'est un espace important. Pourquoi ? Parce que c'est un espace où tous les enfants vont mettre les pieds. Autant quand on commence à devenir plus grand et à lire par soi-même, tout le monde ne lit pas la même chose et pas de la même manière. Autant les albums jeunesse, normalement en France, on lit des albums à tous les enfants, à la maison et à l'école.
Bien, justement, faisons un petit retour en arrière. À quelle époque est-ce qu'on a commencé à lire aux enfants, notamment à l'école et dans les bibliothèques? C'est récent.
C'est récent, et ce qui est drôle, c'est que ça vient pas tant des professionnels du livre et de l'enfance, mais ça vient surtout d'une démarche des éditeurs. C'est les éditeurs qui se sont emparés de la sphère éducative dans un intérêt économique plus qu'autre chose. Et par exemple, on a commencé à avoir des bibliothèques de classe parce que l'école des loisirs allait démarcher les professeurs qui du coup pouvaient acheter des livres pour leurs élèves. Alors ça ne veut pas dire que la lecture à voix haute pour les enfants, ça date uniquement de la fin du 20e et uniquement parce que des grosses structures éditoriales ont envoyé des livres dans les milieux scolaires. Mais ça s'est démocratisé, ça s'est généralisé comme ça. Ce n'était pas quelque chose qui a été mis dans les programmes. C'est les structures éditoriales qui ont vu un marché et qui s'en sont emparées.
Et de l'autre côté, quel est le rôle de la famille dans la lecture? Est-ce que c'est des approches différentes, la lecture en famille versus la lecture à l'école?
Parce que les sociologues ont pu voir C'est que selon la classe, merci Bernard Lahire par exemple, ou Bourdieu, ce genre de petits sociologues qu'on aime bien, que les pratiques variaient. Donc ça va aller d'un côté de pratiques vraiment littéraires, où on va avoir un goût et pour des auteurs par exemple. On va avoir des familles, on va dire tel auteur de l'école des loisirs, on l'aime bien, tel illustrateur, on l'aime bien. Et il y a cette notion de capital littéraire qu'on commence à construire avec un goût, avec des critères, avec des affinités. Là où dans des familles plus populaires, le livre, c'est un moyen d'apprendre. Donc c'est quelque chose d'utile. Donc c'est utile parce que ça va m'apprendre quelque chose, c'est utile parce que ça va m'aider à l'école. Et c'est pour ça, moi je suis bibliothécaire dans ma vie de jour.
Professionnelle.
C'est ça.
La vie de jour.
Dans ma vie de jour, quand je ne travaille pas pour une compa pour du bar. Et je vois que c'est des familles qui viennent pour les enfants parce que c'est utile pour les enfants, mais qui ne viennent pas pour eux. Et du coup, les livres, ça va être des premières lectures, ça va être des choses qui vont être utiles pour y gagner quelque chose et y gagner quelque chose dans l'accomplissement, donc dans le parcours scolaire. Et c'est le rôle que se choisissent les parents au regard de leur propre capital social et culturel.
Pour compléter tout ça, quoi. Qu'est-ce que nous racontent les récits et les personnages classiques de la littérature jeunesse sur les normes sociales aujourd'hui ? Si on parle du classique, du pas déconstruit, du pas féministe.
Du secteur de la production littéraire dans son ensemble ?
Ouais.
Alors, il y a une étude européenne qui s'appelle « Du côté des petites filles » qui avait été menée, qui montrait que les personnages étaient majoritairement masculins et que les petites filles étaient adjuvantes, que les garçons allaient vaincre les dragons pendant que les petites filles étaient très sages chez elles. Et c'est vrai que c'est les récits majoritaires où c'est les personnages masculins, de façon très majoritaire, qui ont une place active, en tout cas.
Et ça, c'est une étude qui date de quand ? Grosso modo, je vous demande pas.
Années 90, je vais dire des bêtises. Il me semble 95, si je dis pas de bêtises, mais dans les années 90.
D'accord. Donc, ouais, donc c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Peut-être moins, on espère, mais...
Finalement, le neutre, c'est un peu le masculin, comme dans beaucoup d'autres thèmes. Et justement, en préparant un peu cette émission, on s'est rendu compte avec Pauline qu'il y avait des personnes qui disaient « La littérature jeunesse doit rester neutre, dénuée de toute controverse, tout ça. » Est-ce qu'on peut vraiment rester neutre en littérature jeunesse, surtout à l'égard de ce que vous venez nous dire sur cette étude ?
Non. Et moi, ce que je trouve très, très drôle, c'est par exemple, à Chien de combat pour du beurre, il y a un album qui s'appelle « L'amoureuse de Simone » avec deux amoureuses. Et quand je présente en formation, on me dit « Non, mais comment ça, c'est pas possible ?» Une fois, j'ai eu le malheur de dire que c'était le premier album avec deux lesbiennes, deux enfants lesbiennes sur la couverture, et là, mon Dieu. Donc on a dû déconstruire des choses. Non, lesbienne, c'est pas forcément une sexualité. Ça peut être avant 15 ans, être lesbienne à 6 ans ou à 15 ans, c'est pas la même chose, mais c'est possible d'être lesbienne à 6 ans. On reçoit pas, avec la puberté, une petite lettre avec notre orientation sexuelle. Et moi, ce que j'ai amené avec ce groupe, c'est de dire, mais l'amour de Simone, ça vous choque parce que vous avez l'impression qu'on pousse quelque chose. Mais est-ce que ça vous choque les 352 albums avec des petits amoureux, c'est une petite fille et un petit garçon? Pourquoi d'un côté, ce serait politique et de l'autre, pas? Et c'est tout simplement, vieux comme le monde, le majoritaire ne se voit pas et a l'impression que sa norme est neutre. Et dès que c'est quelque chose qui représente la marge, d'un coup, c'est politique, d'un coup, ce serait pas la littérature, ce serait que pousser des agendas sur de pauvres enfants, alors que c'est tout aussi politique que la norme, en réalité. Un personnage blanc est aussi universel qu'un personnage non blanc. Un personnage non blanc est aussi universel qu'un personnage blanc.
Pas de neutralité.
Non.
Pour vous, à partir de quel âge, justement, on peut incorporer des thématiques féministes ou LGBTQIA+, dans les écoles jeunesse ? Dans les livres jeunesse.
Par exemple, je ne compte pas pour du beurre, leur ligne, parce que c'est ce qui n'existait pas avant qu'elles existent, c'était de représenter les personnes LGBTQI+. De dire que nous ne sommes pas des sujets, nous sommes des personnes qui existons. Et on fait aussi des pâtes le soir, on ne fait pas que des coming out, parce que c'est fatigant. Et du coup, la question c'est plutôt qu'est-ce qu'on entend par thème LGBTQI+. Est-ce que des livres sur des transitions d'enfants, par exemple, à partir d'un an, je ne sais pas, mais la représentation de personnages LGBTQI+, la représentation de personnages qui ne correspondent pas aux normes genrées, ça, c'est dès la naissance. Et par contre, parler des normes sociales, ben là, ça doit être adapté à l'enfant et à où il en est. Moi, ce que je dis souvent pour les albums antisexistes, c'est que les amener avant que l'enfant ait rencontré ces stéréotypes-là, c'est dommage parce que c'est les intégrer avant qu'il les ait rencontrés. C'est-à-dire que si cet enfant, parce qu'il vit dans l'Est parisien avec des familles queer, on lui a jamais dit « les poupées, c'est pour les filles », un album où on dit « les poupées, c'est aussi pour les garçons », c'est un peu contre-productif parce que pour cet enfant-là, à ce moment-là, les poupées, c'est pour tout le monde. Donc moi, j'avais fait l'expérience, c'est Talent Haut qui a un projet avec les écoles. Donc là aussi, c'est la structure éditoriale qui est présente dans le milieu scolaire. En gros, ils envoient une mallette, elles d'ailleurs, elles envoient une mallette d'albums jeunesse, trop chouette. Et c'est des classes de CP-CE1 qui doivent écrire un texte. Donc c'est je sais plus combien d'écoles en Ile-de-France. Il y a un texte qui est sélectionné par les éditrices, c'est illustré, et ça fait un livre. Et tous les ans, il y a un livre qui sort et ça a été écrit par des petits-enfants. Et moi, je me suis retrouvée dans la position de la personne en classe avec les enfants, dans une classe de CP, et j'ai fait un bide. Et moi, j'ai fait un exercice sur le sexisme, et il n'y avait rien. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez ? Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre vous et les garçons ? Non. Est-ce que vous... Vraiment, ils me regardaient, mais comme si j'étais...
Mais de quel âge tu viens ?
Mais ça, c'est tu vas bien ? De quoi tu me parles ? Ben oui, je suis amie avec des gars, mais qu'est-ce que t'es bizarre ? Donc ouais, pour dire que selon les classes sociales, les stéréotypes de genre sont plus ou moins, arrivent plus ou moins vite, selon aussi les éducations des parents. Les stéréotypes de genre arrivent plus ou moins vite, et du coup, il me semble que c'est important, quand il s'agit de déconstruire des stéréotypes, d'amener ces albums-là uniquement quand le stéréotype est déjà présent chez l'enfant, pour pas lui partager des choses qu'il a pas encore eues. Il va les avoir, c'est assez sûr, mais laissez-le tranquille tant qu'il les a pas encore.
On espère. Et alors justement, sur des enfants qui lisent ce genre d'ouvrage et qui découvrent des nouvelles thématiques, une nouvelle vision du monde, quel effet concrètement ça a sur eux, sur leur empathie, leur compréhension ?
Ah ben ça change.
Comment est-ce qu'on peut regarder ?
Y a plusieurs choses. Moi, j'avais eu un... Dans la même école, j'avais utilisé comme un nom de papillon noir pour faire un petit théâtre forum sur le racisme. Et du coup, dans comme un nom de papillon noir, il y a une scène de racisme. Et ce que j'ai fait, à la manière du théâtre forum, j'ai demandé aux enfants de la rejouer. Vous auriez fait quoi ? Et du coup, ça a permis à tous les enfants de se dire qu'est-ce que moi, j'aurais fait en tant que moi dans cette situation-là. Et ça les a rendus acteurs de violences auxquelles ils participaient, même sans le vouloir, parce que ils avaient 6 ans, les pauvres, ils ne s'en rendaient pas forcément compte. Et du coup, bien sûr que ça permet pour les enfants, si c'est hétéro-blanc, de se rendre compte qu'ils ne sont pas le centre de l'univers et que d'autres existences existent. Et pour les personnes marginalisées, ça permet de se rendre compte que si nos existences, elles ont autant de mérite, elles ont autant leur place dans la littérature, dans toutes les littératures.
Autant d'importance. Et est-ce que dans votre vécu de jour, de bibliothécaire ou ailleurs, est-ce que vous avez des retours des enfants eux-mêmes sur les récits que vous pouvez vendre via votre maison d'édition ? Est-ce qu'ils ont exprimé des retours sur les messages véhiculés ?
Les enfants, ils s'en fichent.
Ouais. C'est ça le plus important peut-être là-dedans.
Oui, c'est par exemple l'amoureuse de Simone, donc la formation où il y a donc une adhérente qui a commencé à être lesbienne. C'était un sujet parce que c'était l'album préféré, ça l'est toujours, ils l'ont racheté 6 fois, c'est l'album préféré des gamins. Mais ils en ont rien à faire que ce soit de petites filles amoureuses. Ils l'aiment bien parce qu'il est mignon et qu'il y a des pandas et qu'il est drôle et qu'elle joue aux pirates. Le fait que ce soit deux amoureuses, parce que c'est banalisé, c'est banal pour eux. Là, on a des... je parlerai quand mon nom, mais j'ai eu des retours, par exemple, des libraires de Viet&Co, ou des Mois à la bouche, ou même des autres membres d'un groupe pour du beurre. Les réactions très émotionnelles, elles viennent des adultes. Par exemple, il y a une grand-mère trans qui est venue à Viet&Co, et c'était la première fois qu'elle se voyait dans un album, puisqu'on a Papita, où c'est Papi qui devient Papita. C'est le premier, c'est le seul, et elle a pleuré en le voyant. Donc c'est les adultes qui n'ont pas eu accès à ces récits, qui ont une réponse émotionnelle. Les enfants, ils s'en fichent, parce que s'ils les ont à disposition, c'est leur normalité à eux, et c'est le but.
C'est leur réalité, ouais. Comme quoi, c'est important même pour les adultes d'avoir des enfants, des livres pour enfants représentatifs. Prenez-en de la graine. On fait une petite pause dans l'interview pour accueillir notre première chroniqueuse de ce soir, Chloé, qui nous offre chaque émission une relecture féministe des mythes antiques. Et aujourd'hui, tu nous parles du mythe d'Ulysse, ou plus particulièrement de sa traduction. Salut Chloé.
Oui.
Yes. Salut Chloé. Donc du coup, tu vas nous parler d'Ulysse, on disait, ou plus particulièrement de la traduction d'Ulysse.
Oui, tout à fait. En fait, et si Ulysse n'était pas un homme rusé, mais compliqué, et comme ce mois-ci, on reçoit une éditrice pour parler de l'importance des représentations et de la diversité dans nos livres, j'ai choisi de ne pas parler d'un mythe, mais de l'enjeu de leur traduction. Car les mythes, bien sûr, ne nous parviennent pas, enfin, ils nous parviennent en français que par des traductions. Et d'ailleurs, saviez-vous que le mot traductrice a été introduit dans la langue française pour qualifier la première femme qui a traduit Homère en français ? Cette femme, c'était Anne Dacier. Au début du XVIIIe, ses traductions de textes antiques ont été saluées comme des chefs-d'œuvre et elle a été admirée d'intellectuels comme Boileau ou plus tard Voltaire. Mais son travail a aussi déclenché une polémique, la querelle d'Homère, ultime rebondissement de la querelle des anciens et des modernes. Je vous la résume en 2-2. Vaut-il mieux privilégier la fidélité au texte original ou bien son adaptation au goût du jour ? En 2018, 300 ans plus tard, la première femme à traduire l'Odyssée en anglais, Emily Wilson, a apporté sa propre réponse à cette question.
Et tu peux nous en dire un peu plus sur cette Emily Wilson et cette traduction de l'Odyssée ?
Alors, le projet d'Emily Wilson, à l'origine, il était stylistique et pas militant. Elle voulait traduire l'Odyssée en vers, dans un rythme qui reflète celui de l'original. Mais dès l'ouverture, son texte rompt avec les traductions précédentes. Ulysse y devient un homme compliqué, alors que les traductions précédentes le désignaient comme un homme subtil, sage ou encore rusé. Pour justifier ce choix, elle explique que le mot original, polytropos, évoque les nombreux détours que fait le personnage, des virages à la fois littéraux et métaphoriques. Et c'est vrai qu'on parle d'un homme qui n'est pas rentré en ligne droite à Ithaque et que l'on verrait bien décrire sa situation sentimentale sur Facebook comme « It's complicated ».
Alors, dans cette traduction, Ulysse, c'est un héros plutôt ambivalent. Mais qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne les personnages féminins ?
Alors, Emily Wilson explique que les personnages féminins peuvent être victimes des préjugés antiques, mais aussi des préjugés des traducteurs contemporains. Elle donne un exemple. Quand Ulysse revient à Ithaque, il tue les prétendants de sa femme et il ordonne à son fils de tuer les esclaves qui ont couché avec eux. Selon elle, les traducteurs anglophones ont utilisé des termes pour désigner ces esclaves comme « slut » ou « horse », c'est-à-dire « salope », alors que cette connotation morale est absente du texte original. Dans son interprétation à elle, Ulysse les fait tuer pour montrer qu'il est à nouveau le maître des lieux. C'est une question de pouvoir, pas de morale. D'ailleurs, il ne s'agit pas seulement d'une question de genre, mais aussi de classe. Emily Wilson rappelle que de nombreuses traductions évoquaient, avant la sienne, des servantes et non des esclaves, alors que pour elle, il n'y a aucune ambiguïté sur le terme grec. Comme si cela permettait d'éviter de se confronter à une question qui dérange plutôt que de s'y confronter.
On revient donc au sujet de la fidélité au texte original versus son adaptation au goût, à la morale et à l'esthétique contemporaine.
Oui, et je vous disais tout à l'heure que Emily Wilson apportait sa propre contribution à cette question. Pour elle, l'enjeu, c'est moins celui de la fidélité que celui de la responsabilité. Il n'y a qu'une seule façon d'être fidèle, comme Pénélope, qui attend 20 ans Ulysse sans jamais regarder ailleurs, mais plusieurs d'être responsable. Et elle-même, elle se considère comme une traductrice responsable, responsable envers ses lecteurs, envers la langue d'Homère et envers la complexité éthique du poème original, ainsi que sa forme littéraire. Cette notion de responsabilité, je la trouve fertile. Il me semble que l'on raconte les mythes comme des histoires pour enfants parfois très manichéennes, alors même qu'on voit dans ce que vous venez de dire dans votre conversation que les enfants survivent très bien à ces textes et surtout les adultes qui s'en trouvent un peu heurtés. Et du coup, réintroduire un peu de complexité ne fait pas de mal, surtout à propos d'un personnage qui, comme Ulysse, fait autant de détours.
Merci beaucoup Chloé. Effectivement, la traduction, c'est vraiment un enjeu majeur dans la vie des histoires. Et réintroduire un peu de complexité, c'est salvateur.
Cette barge trafiquée dans son regard, sa fille anormale et sa fille au doigt défigurée là. Qui est ce bâtard tendant vers la borderline du raniste fab qui suce sa proie? Décapitez-le, offrez sa tête au roi. Faites-en ce que vous voulez, vous ne la connaissez pas. La reine veut la dévorer. Offrez sa tête au roi, faites-en ce que vous voulez, vous ne le connaissez pas. Lui le prince veut l'épouser. On se cachait, maintenant on s'élève. C'est pas à vacher sur les clichés qu'on changera les règles. Maintenant on riposte. C'est pas en restant sans rien J'ai osé rêver que tout le monde enfin le voyait. Depuis quand le bonheur des autres peut amoindrir le tien? Tu dis quoi? Je ne comprends pas. Reprends ton souffle et tes pancartes et va marcher plus loin. Tu veux nous orienter, c'est gentil de proposer. Sans vouloir t'offenser, va te faire enculer. Tu veux nous orienter, c'est gentil d'insister. Sans vouloir te brusquer, va te faire cunilinguer. Les PD sont beaux, j'ai osé rêver que tout le monde enfin le voyait.
D'Aloïse Sauvage, sorti en 2020. Et c'est un titre que justement les enfants aiment particulièrement. Un refrain simple, une belle mélodie et un très très beau message d'inclusivité queer.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez On se lève, on se casse, cette fois c'est la bonne, sur Radio Campus Paris, le 93.9 FM. On est toujours avec Sarah Guélam, qui est éditrice aux éditions On ne compte pas pour du beurre et directrice de la collection Dans cette maison, j'aimerais t'y voir.
Et justement, on va parler du rôle des maisons d'édition. Alors, On ne compte pas pour du beurre, c'est une maison d'édition inclusive, engagée dès ses débuts pour des représentations de familles homoparentales, puis qui a élargi ses thématiques. Est-ce que Sarah, vous pouvez nous parler un peu de la genèse de cette maison d'édition que vous connaissez bien?
Oui. Alors, il était une fois deux mamans, Alda et Caroline, qui ne trouvaient pas d'album où leur famille était simplement représentée. Donc elles font ce que font beaucoup de mamans désemparées. Elles l'ont fait, elles ont écrit des albums, elles l'ont envoyé à des maisons d'édition. Elles n'ont pas eu de réponse. Mais Alda et Caro étant Alda et Caro, elles ne se sont pas arrêtées là. Elles ont lancé leur structure éditoriale. Alors elles ne viennent pas nulle part non plus. Alda, elle travaille dans le milieu littéraire. Caro, elle travaille dans le milieu de l'image, donc elles avaient des petites vies. Mais c'est comme ça qu'elles se sont lancées. Pourquoi je dis ça? Pour dire que On ne compte pas pour du beurre, ce n'est pas un geste éditorial, c'est un geste vraiment militant. Ce qui ne veut pas dire que le produit en soi est différent, mais ce qui anime cette envie de produire ces albums-là, ce n'est pas une stratégie éditoriale, ce n'est pas une stratégie commerciale, c'est répondre à un besoin en tant que personne concernée. Donc là, littéralement, c'était produire un album pour leur petite fille, qui maintenant est grande.
Cette collection de livres dans votre maison d'édition, donc elle est appelée J'aimerais t'y voir, elle veut proposer un espace donc, de recherche, je le rappelle, autour des représentations dans les livres jeunesse. Pourquoi avoir choisi de créer cet espace, justement?
J'étais un peu énervée, on va dire plus, de me rendre compte qu'on continuait dans le milieu professionnel du livre jeunesse, de se poser la question, est-ce que c'est important les représentations? Fatiguée parce qu'il y a 50 ans de recherche sur la question et qu'on continue à faire semblant de ne pas savoir. Donc moi, le but avec cette collection-là, c'était de diffuser les recherches déjà entamées. Donc là, les trois livres qui sont déjà sortis, c'était à partir de travaux de recherche déjà soutenus. Donc deux mémoires et une thèse, dans l'idée de dire... vous ne semblez pas être au courant. Et puis, par ailleurs, est-ce que vous avez, vous, le temps de lire une thèse? Est-ce que la thèse, elle va répondre à vos questions, vous, que vous avez professionnelles? Pas vraiment. Et ça vient aussi de demandes. Et moi, j'avais ce constat d'un secteur qui est complètement fermé sur lui-même, ne lit pas les recherches qui sont menées à son sujet. Et de l'autre, des professionnels qui sont super contents que j'ai soutenu mon mémoire du coup sur les personnages d'enfants non blancs en littérature jeunesse, mais qui ont des questions très concrètes liées à leur pratique. Et mon mémoire, il répond à une question de recherche, il répond pas à des problématiques professionnelles. Donc j'ai commencé à dispenser des formations parce qu'on m'en demandait. Donc j'ai commencé à un peu comprendre c'est de quoi, ce dont avaient besoin les professionnels. Et donc j'ai pitché cette collection à Elda et Caroline, des guides professionnels à destination des professionnels du livre et de l'enfance, écrits à partir de travaux de recherche déjà soutenus.
Donc c'est vraiment des synthèses destinées à des gens de l'édition, en majorité.
Alors surtout à des bibliothécaires et des libraires, des médiateurs.
D'accord.
L'idée, c'est que n'importe qui veut avoir un regard critique sur les livres qu'il choisit, puisse avoir accès à des outils. L'éditeur, je ne suis pas sûre qu'il soit très sensible aux conclusions de nos recherches, pour de multiples raisons.
Oui, pour des raisons commerciales, pour des raisons... Ah, ok, d'accord.
Et alors justement, un peu d'espoir, est-ce que vous avez observé une évolution dans la manière dont les personnages féminins, LGBTQIA+, ou racisés, sont représentés dans la littérature jeunesse au cours des dernières décennies ou années, soyons optimistes?
Alors sur les persos LGBTQIA+, ce qu'on peut voir, c'est que depuis le mariage pour tous, il y en a plus. Mais ce qu'on regrette, avec mon combat pour du beurre, c'est que ces représentations sont soit problématisées, soit expliquées. Donc soit la personne LGBTQIA+ va vivre quelque chose de monstrueux, ça va être dur, ça va être un secret, ça va être un problème. Soit tout va bien, mais on va expliquer. On va avoir 6 pages sur c'est quoi être trans, c'est quoi avoir 2 mamans. Le premier livre avec 2 mamans, ça a été longtemps Jean à 2 mamans. On t'explique que Jean a 2 mamans comme un papa et une maman, et où il y a une maman très masculine, une maman très féminine. Donc les représentations banalisées, elles n'existent que chez On ne compte pas pour du beurre. Donc il y en a plus, mais il n'y en a que chez On ne compte pas pour du beurre. Il y en a aussi chez Shed Publishing, qu'on aime beaucoup. Tout est si brillant, où on a le premier personnage maghrébin queer, avec une maman voilée qui l'aime de tout son cœur, parce que non, c'est faux, les personnes maghrébines ne sont pas plus homophobes que le reste de la planète. Donc voilà, pour les personnages LGBTQIA+, s'il y en a plus, mais on reste sûr, c'est dur d'être LGBTQIA+, ou alors il faut l'expliquer à l'enfant. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le secteur dans son entièreté est incapable de se dire que l'enfant il va être capable de voir des personnes LGBTQIA+, sans qu'il y ait d'explication, alors que les parents pourraient être en capacité d'amener cette explication. Il y a cette idée que si on les représente, on doit les expliquer, que ça peut être que des albums sur et pas avec. Donc ça pour les personnes LGBTQIA+, pour les albums antisexistes. Alors sur les représentations féminines, on reste toujours sur les années 90, hein, c'est majoritairement des personnages masculins qui sont les personnages principaux des histoires. Et sur les albums antisexistes, ce qu'on montre avec Pressy Cross dans le guide, c'est que quand on regarde les albums, les premiers albums antisexistes, bah, les petites filles, elles se levaient et elles se cassaient.
Yes.
Elles avaient un impact concret et sur la durée, sur leur environnement. Donc le patriarcat était vaincu à la fin de l'album. Donc ça, c'était dans les années 70 et c'était dans des structures féministes par des militantes. Depuis, toutes les maisons d'édition ont leurs albums antisexistes. Il faut bien mettre quelque chose sur la table le 8 mars. Mais ce dont on se rend compte, c'est que à chaque fois, c'est des batailles individuelles, donc très loin de ce que nous, on connaît des engagements féministes, et qui sont gagnées à un moment T. Donc le petit garçon, il va demander sa poupée, il va l'avoir. Mais à la fin de l'album, les poupées, c'est toujours pour les filles. Et le petit garçon, il n'est pas garanti de la ravoir, sa poupée. Et son copain, il ne l'aura pas non plus. Et de dire que voilà, depuis que Talon a commencé à faire des livres antisexistes et que le reste du secteur a suivi, on n'a que ça, des batailles individuelles qui sont à regagner systématiquement.
Donc.
Et où l'enfant n'a jamais vraiment de pouvoir sur son environnement.
Donc pas vraiment d'albums sur, par exemple, la sororité, les relations entre sœurs, ou entre personnes gays, entre amis gays, je sais pas, enfin, tout ça, les relations entre...
Bah dans les albums jeunesse, en tout cas, agir collectivement et gagner des batailles véritablement, on le permet pas aux enfants. Dans les albums jeunesse, en tout cas, 06, c'est pas quelque chose qu'on permet aux enfants. Okay. En fait, on remet pas en cause, et c'est là où il y a d'autres relations de pouvoir qui viennent en jeu. On permet pas aux enfants d'avoir du pouvoir sur les adultes. En littérature jeunesse, l'autorité des adultes reste, quoi qu'il arrive.
Ouais, donc c'est très, très adultiste, quoi, finalement.
C'est très adultiste, la littérature jeunesse. Là où il y a de l'espoir, c'est sur les personnages d'enfants non blancs, parce que dans mon mémoire soutenu en 2021, je dis qu'il n'y a pas d'album où les personnages d'enfants non blancs sont écrits comme des personnages d'enfants non blancs. C'est-à-dire qu'on pourrait les remplacer par des personnages blancs et ça n'affecterait pas le récit. Ils sont simplement colorisés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, par exemple, dans Tout est si brillant, c'est un petit garçon qui veut chanter en arabe comme sa grand-mère, comme sa mère. Il y a plein d'éléments liés à sa culture, des éléments spécifiques. Quand on regarde le secteur éditorial jeunesse dans son intégralité, dans les albums jeunesse avec des personnages d'enfants non blancs, ces personnages, ils sont dans le milieu scolaire, ils sont en extérieur, et il y a peu d'éléments qui sont rattachés à ces personnages. Pourquoi? Parce qu'ils ont été écrits par des personnes blanches, et c'est les hypothèses que nous, on a, chercheurs-chercheuses, on n'a pas fait d'entretien avec illustrateurs et illustratrices, mais l'hypothèse la plus flagrante, c'est de dire qu'il y aurait une peur de mal faire, d'exotiser, de se tromper, et du coup, il vaut mieux attacher le moins possible à ces personnages pour ne pas se planter que de vraiment écrire ces personnages comme étant qui ils sont. Et les rares exceptions qu'on a depuis, c'est des albums qui ont été écrits, illustrés par des personnes non blanches, ce qui est encore trop rare. Et c'est là où, très vite, la question de la diversité en littérature jeunesse, on arrive très vite à la question de la diversité dans les métiers des livres jeunesse, parce que s'il y a si peu de représentation, c'est qu'il y a aussi si peu de diversité dans les professions, dans les professions du livre.
De l'intérêt que ce soit fait par des personnes concernées. Je crois que vous avez des nouveaux tomes à paraître dans cette collection. Est-ce que vous pouvez nous en parler ou est-ce que c'est top secret?
Non, c'est pas top secret du tout. Donc là, on a fait trois guides à partir de travaux soutenus. Donc LGBTQ+, non blanc, album antisexiste. Et là, on va rééditer deux livres qui nous semblaient très importants. Comment parler de racisme aux enfants de Rokhaya Diallo. Ça a resté le livre référence et il n'était plus disponible parce que le Baron Perché a fait faillite. Et le manifeste d'une lectrice en colère d'Eléo Diode, mieux connue sous le nom de la Bouctiaise, qui c'était un projet étudiant du coup qui n'a pas duré longtemps, mais qu'on a choisi de rééditer. Et enfin, on va éditer la dernière chercheuse, normalement, et ce sera sur les personnages en situation de handicap.
Super, ok.
Une fois qu'on aura fini avec ces trois-là pour 2025, on va passer aux pratiques professionnelles, justement. D'accord. Parce que c'est bien beau de savoir que ces livres existent, mais qu'est-ce qu'on en fait en bibliothèque, en librairie, en milieu scolaire, etc. etc.
Oui, donc un tout nouveau pan, vous avez vraiment un plan...
Je suis arrivée avec 13 titres.
Pour le quinquennat, quoi.
De 2024 à 2028.
On a hâte.
Ce sera le quinquennat de... J'aimerais t'y voir. Voilà.
Et tout va bien.
On a très hâte. Et juste pour élargir un peu, même si je sais que ça, on se concentre beaucoup sur la littérature jeunesse en France, est-ce que vous voyez quand même une différence dans la manière dont ces thématiques sont accueillies selon les différents pays?
Bien sûr, tout à fait.
Juste quelques mots, parce que c'est intéressant de...
Bah en France, il y a deux choses. Il y a le rapport qu'on a de l'enfance, comment on considère l'enfance, comment elle devrait être protégée. Et l'autre chose, c'est le rôle de l'éditeur, qui est très français, qu'on ne retrouve pas ailleurs, de l'éditeur avec un grand E, qui publie la littérature avec un grand L, qui découvre l'auteur. Ou par exemple, en France, on ne parle pas trop de conditions financières, parce qu'on ne le voit pas comme un marché. On le voit comme vraiment du travail culturel. Et cette position-là du grand éditeur qui découvre le grand auteur, du geste littéraire qui ne saurait se soumettre aux idéologies, peu importe d'où elles viendraient, c'est quelque chose de très français. On va aux États-Unis par exemple, il y a plus de diversité. Pourquoi? Parce que c'est un marché éditorial. C'est considéré comme de la production culturelle, comme de la production, et du coup, il y a une diversité juste mais parce qu'il y a un marché. Ils savent que s'il y a un personnage noir, il sera acheté par les familles noires. Donc, ils vont faire des personnages noirs et fin. Donc, le manque de représentation en France, il est lié au rôle que l'éditeur se donne à lui-même.
En réflexion.
En réflexion. Non, mais c'est passionnant. Absolument passionnant. Merci, Sarah. Il nous reste un petit peu de temps. Et donc, maintenant, c'est le moment d'accueillir notre deuxième chroniqueuse, Alice, qui, tout au long de l'année, nous parle des autrices qui ont gagné le prix Nobel de littérature. Et pour cette troisième chronique, Alice, de qui vas-tu nous parler ?
Bonsoir à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la romancière norvégienne Sigrid Undset. C'est la troisième chronique, effectivement. Et du coup, c'est la troisième femme à avoir reçu le prix Nobel de littérature.
Super. Donc voyageons en Norvège pour cette chronique.
Exactement. Parce que Sigrid Undset, elle a une grande place dans la littérature norvégienne du XXe siècle. Elle a d'ailleurs reçu le prix Nobel en 1928 grâce à son œuvre sur la littérature nordique au Moyen-Âge.
Et donc, on note qu'elle le reçoit 2 ans seulement après Grazia Deledda, dont tu nous as parlé la dernière fois.
Oui, mais malheureusement, la prochaine ne l'aura qu'en 1938, soit 10 ans plus tard. Mais bon, ça, ce sera pour la prochaine chronique.
D'accord. Revenons-en à Sigrid Undset. Raconte-nous un peu sa vie.
Alors, Sigrid, elle est née en 1882 au Danemark, d'une mère danoise et d'un père archéologue norvégien. Grâce à son père, justement, elle développe une passion pour l'histoire et la recherche, ce qui l'amènera à écrire ses sagas historiques et lui vaudra donc le prix Nobel. Malheureusement, il meurt quand elle a 11 ans, ce qui laisse la famille sans argent. Et du coup, elle doit arrêter ses études et prendre un travail de bureau à 17 ans. Ça ne la décourage pas pour écrire, du coup elle le fait sur son temps libre et elle publie son premier roman à 25 ans. Et ce roman, il rencontre un grand succès. Elle devient donc écrivaine. Ses œuvres se classent dans 2 catégories, les romans contemporains qui se déroulent en Norvège et les romans historiques inspirés de l'histoire nordique.
Et est-ce que comme Selma Lagerlöf, est-ce que c'était une femme engagée ?
Côté féminisme, même si les destins de femmes sont au cœur de sa littérature, elle ne s'inscrit pas vraiment dans le courant féministe qui, dans les années 20, était tourné vers le travail des femmes. Elle défend la maternité et la vie au foyer comme des valeurs essentielles dans la vie d'une femme. Elle s'engage, en revanche, dans les années 30 contre le national-socialisme. Ses livres sont brûlés en autodafé en Allemagne et elle doit s'enfuir aux États-Unis pour ne pas être capturée par les Allemands lors de l'invasion de la Norvège. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle soutient le gouvernement norvégien de résistance. Et en reconnaissance de ses actions dans la résistance, elle est justement la première femme à obtenir en 1949 la Grand Croix de l'Ordre de Saint-Olaf.
Ok, quelle vie absolument passionnante. Et côté livre, qu'est-ce que tu as lu du coup d'elle pour ta chronique ?
J'ai découvert un roman pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur et qui m'a beaucoup marquée par ses thèmes et par sa modernité. Ce roman, en fait, il montre vraiment l'ambivalence de Sigrid Undset pour ses personnages féminins et leur émancipation. Il s'agit de Jenny, qui a été publié en 1911. Le livre, alors il fait scandale à sa parution à cause des thèmes qu'il aborde. Donc Jenny, c'est une jeune artiste norvégienne célibataire de 28 ans qui part à Rome pour étudier la peinture. En Italie, elle découvre la liberté, la vie de bohème et surtout la passion amoureuse. Sa soif de liberté, son ambition artistique et son amour survivront-ils au retour en Norvège et à la violence des hommes ? Voici un récit qui va vous plonger dans l'Italie flamboyante aux couleurs du printemps, à la froideur d'Oslo et ses conventions morales et religieuses, et vous entraîner dans les joies et les tourments psychologiques de ce superbe personnage. Promis, vous n'en sortirez pas indemne.
Eh bien, merci beaucoup Alice. Voilà un livre de plus dans ma pile à lire. Your skin looks like pearls, the best thing in the world. Never change it for anybody else. And down skin, girl, your skin just like pearls, the best thing in the world. And never change it for anybody else. Singing. She says she really grew up poor like me. Don't believe in nothing but the Almighty. Just a little jeans and a pure whitey. She never dreamed forever be nobody wifey. Yeah. She wall I mean a pretty but your heart is a miss. Play you like a villain cause she caught in a wave. Tonight I am walking away. 9 to 5 mine and I grind. Tonight I might fall in love.
depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fights it by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the world, I never trade you for anybody else. A brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing in all the world, I never trade you for anybody else.
Pose like a trophy when Naomi's walking. She need an Oscar for that pretty dark skin. Pretty like Lupita when the camera's closing. Drip broke the levy when my Kelly's rolling.
I think tonight she might break her brain. Melanin too dark to throw her shade.
She minds her business and winds her waist.
Roll like 24K.
Okay.
Tonight I might fall in love. Depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fighting but falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the world, I never trade you for anybody else. A brown skin girl, skin just like pearls. The best thing about the world, I never trade you for anybody else.
Oh, have you looked in the mirror lately? Wish you could trade eyes with me.
Because
there's complexities in complexion, but your skin is glow like diamonds. Dig me like the earth, you be giving birth to everything alive, baby, know your worth. I love everything about you, from your nappy curls to every single curve, your body natural.
Same skin that was broken, me the same skin taking over. Most things out of focus view, but when you're in the room, they notice you. Cause you're beautiful. Ooh. Yeah, you're beautiful. Ooh.
Women, them gon' fall in love with you in all of your glory. Dark. It shines and it tells your story. Keep dancing, they can't control you. They watch and they all adore you. If ever you are in doubt, remember what mama told you.
Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the world, I never trade you for anybody else.
Skin just like pearls, best thing in the world. I never tried to for anybody else singing.
C'était le titre Brown Skin Girl de Beyoncé avec le chanteur et rappeur américain St. John et sa fille Blue Ivy qu'on a entendu enfin. Titre sorti en 2019 sur l'album The Lion King The Gift.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez toujours On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris, le 93.9 FM, et nous sommes toujours avec Sarah Guélam, éditrice aux éditions On ne compte pas pour du beurre et directrice de la collection Dans cette maison, j'aimerais t'y voir.
Alors Sarah, une petite question personnelle. Est-ce que vous pouvez nous parler des personnages marquants de votre bibliothèque d'enfant?
Ma bibliothèque. Alors moi, ça a été beaucoup Fifi Brin d'Acier, même si je l'ai relu adulte et j'ai relu les autres tomes adultes, et c'est compliqué. Parce que bon, le colonialisme, tout ça. Mais Fifi Brin d'Acier, ça a parlé à ma petite fille sauvage qui avait été assagie. Parce que Fifi Brin d'Acier, c'est une petite fille qui vit seule, qui fait ce qu'elle veut, qui est trop bien. Donc mon personnage préféré en littérature jeunesse, je pense que c'est Fifi Brin d'Acier. Et sinon, il y a les Moomins.
Les
Moomins.
Oui.
Alors, les Moomins. Je connaissais pas du tout, c'est quoi?
C'est la meilleure chose au monde.
Ok.
Alors, déjà, ça a été écrit par Tove Jansson.
D'accord.
Qui est une artiste lesbienne. Bi. Qui a fini sa vie avec son amoureuse sur une île en Finlande à faire de l'art. Il y a un roman qu'elle a écrit, enfin c'est plutôt pas un recueil de nouvelles d'ailleurs, sur leur vie à deux femmes âgées qui vivent en totale autarcie avec elles et leur art, et c'est un petit bijou. Et du coup, Tove Jansson, elle a écrit Les Moomins. Ça a été des romans et des planches de BD. Donc les Moomins, c'est des petites créatures un peu schtroumpf, mais en plus mignon. Philosophique, anticapitaliste. Et il y a beaucoup d'elles dedans. Déjà, il y a ses amoureuses qui ont été dessinées dans les romans et dans les planches. Il y a toute une peur de la guerre, parce qu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale et que c'est quelque chose qui l'a beaucoup touchée. Et il y a deux personnages qui ont leur propre langue à elles. Et c'est en fait le langage qu'elle utilisait avec son amante dans leurs lettres.
Waouh!
Et elles ont un petit coffre secret caché qu'elles essayent de protéger.
Trop bien.
Ouais, il y a du sous-texte lesbien dans les Moomins, ce qui par ailleurs, si vous allez en Finlande, toutes les maisons, elles ont. Enfin, dans toutes les maisons, il y a des mugs, des théières. C'est Disneyland, quoi, les Moomins en Finlande. C'est quelque chose de très démocratique, de très diffusé.
C'est l'emblème national.
C'est l'emblème national.
Ah, oui.
Et c'est très queer, très anticapitaliste, très anti-impérialiste.
Ok.
Et très mignon.
T'es trop stylé, on est loin de Oui Oui et compagnie là.
On est très loin de Oui Oui et compagnie. Mais Moomin se traduit en France. Hein.
Ok.
Là, il y a un album qui vient de sortir sur ces deux petits personnages.
Ah bah, je regarderai.
Donc beaucoup de littérature scandinave hein, ce soir.
Oui, oui, clairement.
Ça, apparemment, ils ont.
Et sur les questions de genre, je pense notamment aux éditions Cambrakis, il y a beaucoup de traductions du Nord, il y a beaucoup de choses intéressantes. Justement, de personnages qui ne correspondent pas aux normes genrées sans que ce soit un sujet, ça vient surtout des pays nordiques.
Cambrakis a d'ailleurs republié Sigrid Undsend ces dernières années.
Oui.
On fait des liens.
Donc si vous voulez la lire, vous savez où c'est. Allez. Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi les nouveaux héros et héroïnes de la littérature jeunesse? C'est qui?
C'est-à-dire.
Est-ce que vous en avez en tête qui vous marquent là dans la nouvelle littérature jeunesse qui sont particulièrement illustratifs de ce qui se passe aujourd'hui en termes de représentativité?
Alors, il y a plutôt des univers d'auteurs, d'autrices que je trouve très intéressants pour ce qu'ils apportent en termes de représentation genrée et raciale. Je pense à Estelle Fay sur les questions de genre, je pense à Lauren Safou. Mais ça se passe beaucoup plus chez les ados que chez les petits. Parce que chez les petits, on reste dans un endroit très protégé de « c'est des enfants, c'est trop tôt, il faudrait les laisser tranquilles », entre guillemets. Il faudrait ne pas leur parler, ne pas les amener. Donc là où je trouve qu'il y a des choses très très intéressantes, alors, à part ces quelques albums de chez Shed, de chez Non Compas pour du beurre, ces quelques traductions en nordique chez Cambrakis, les voix françaises, on les trouve beaucoup plus en littérature adolescente, mais parce que c'est un endroit où on leur laisse beaucoup plus la possibilité de s'exprimer. Lauren Safou, par exemple, la petite histoire de Comme mon papillon noir, qui n'est pas une petite histoire d'ailleurs, on en parle dans le guide sur les personnages d'enfants non blancs, c'est que c'est un livre qui a été auto-édité, qui a explosé en termes de vente, qui a été refusé de l'ensemble du secteur éditorial jeunesse, et qui s'est retrouvé chez Cambrakis, mais pas en collection jeunesse, dans la collection sorcière. Il a été réédité dans une collection de sciences humaines et sociales. C'est le secteur éditorial jeunesse dans son entièreté qui a refusé qu'il soit réédité. Et depuis, Laura, elle a acheté une maison à sa mère. Le directeur de Cambrakis a acheté une maison secondaire pour lui. J'ai plus les ventes en tête, mais je crois qu'on était à 30 000, 45 000. Ça n'existe pas en littérature jeunesse. Mais aussi parce que c'est le seul. C'est le seul album sur le rapport aux cheveux crépus en France.
Ça avait été un phénomène quand il était sorti.
Phénomène qui avait été refusé par l'ensemble du secteur.
Mais pourquoi? Comment est-ce que vous l'expliquez aujourd'hui? C'est une question super naïve, bien sûr, hein, mais c'est pour expliciter un peu...
Parce qu'il y avait une petite fille noire sur la couverture. Et les raisons, ça avait été... Non, mais moi, ce que j'en parle dans mon mémoire et j'en parle dans mon guide, mais il y a la revue des livres pour enfants, qui est la revue du Centre National du Livre Jeunesse, qui est partie de la Bibliothèque Nationale de France. Donc c'est la ressource pour tous les professionnels du livre et l'enfance, qui avaient fait leur examen critique, entre guillemets, parce que c'est un album qui apparaissait pas ni dans leur numéro, ni dans leur section annuelle qu'ils font à la fin. Donc ils ont des critiques dans tous leurs numéros thématiques, et à la fin ils ont un numéro avec une sélection, là il va sortir début décembre. On va voir si J'aimerais t'y voir sera dedans. Et du coup, quand Mamie en papillon noir n'en faisait pas partie. Et ils ont fait un numéro sur cette question-là. Pourquoi on a refusé cet album-là? Et ce que j'ai trouvé triste, mais ils étaient capables de dire que, au regard des ventes et de la réception du public, c'était un album qui avait son importance. Mais ils étaient toujours sur leur position que, d'un point de vue esthétique et littéraire, ça n'était pas qualitatif. Et il y avait zéro remise en question de c'est quoi leur canon littéraire et esthétique à eux et pourquoi, comme de par hasard, un album avec une petite fille noire, ça ne correspond pas à leur canon esthétique et littéraire. Donc les réponses, ça a été ça. Alors ça a été soit des problèmes esthétiques et littéraires, soit ça a été très ouvertement et très frontalement. On ne peut pas publier avec un album avec une petite fille noire, les enfants blancs ne vont pas s'y reconnaître. Et ça s'est avéré que c'est faux, que les enfants, ils en ont strictement rien à faire et qu'il y a plein de choses dans l'album qui parlent même aux personnes blanches. Je ne sais pourquoi on parlait de Commandement de Papillon Noir,
pas parce que je vous avais demandé les nouveaux héros et héroïnes et qu'on on s'était lancé sur,
oui,
mais sur ça. Mais
et pour dire quoi, Laura, elle a eu ce succès-là chez Cambourakis. Après, il y a tout le secteur éditorial qui a voulu la publier. Ça n'a jamais été possible. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on cherchait à universaliser, à blanchir qu'elle proposait. Et c'est uniquement en littérature adolescente qu'elle a pu se permettre avoir la place d'explorer ses univers. Donc elle a continué à publier des albums, il y en a deux et il y en a eu deux autres et il va y en avoir un quatrième, mais toujours dans une collection sorcière de sciences humaines et sociales.
C'est fou parce que son livre aujourd'hui il est magnifique.
Il est magnifique. Et d'ailleurs dans le guide j'ai tenu à faire une critique au milieu de mon guide parce qu'il n'y en a pas eu. Au final, tous les articles qui ont été sortis sur cet album-là, c'était des articles société. Pour dire, oh mon Dieu, un livre avec une petite fille noire se vend. Donc j'ai fait une petite critique littéraire à l'intérieur de mon guide comme geste de réparation pour cet album qui en méritait tant.
Donc on voit qu'il y a des progrès, mais très divers selon les thématiques abordées. Et donc selon vous, aujourd'hui, quel est le ou les deux thèmes qui sont vraiment... Ils le sont tous sous-représentés, mais vraiment priorité. Qu'est-ce que vous verriez sur le thème sous-représenté dans les thématiques abordées?
Je vois qu'il n'y a toujours pas d'album où on permet aux enfants d'avoir un pouvoir sur leur environnement, que ce soit dans une perspective antisexiste ou pas, et que les rapports de domination enfant-adultes en littérature jeunesse, ça reste un impensé. Ce que je vois, c'est qu'il y a quelques albums qui commencent à venir où on voit les mondes que sont tous les enfants non-blancs et qui sont que rares et qui sont soit portés par des structures éditoriales à la marge, soit, et je pense à Peau d'épice chez Gallimard Jeunesse par exemple, où c'est une autrice qui a déjà été publiée en adulte qui du coup a pu publier en jeunesse mais parce qu'elle avait déjà été publiée par Gallimard. Du coup, c'est soit des petites exceptions, des petites erreurs du système, soit des productions par des structures à la marge qui ont pour ligne politique de représenter ces enfants-là. Et moi, j'attends que le secteur dans son entièreté, comme il a fait pour les albums antisexistes, alors pour les bonnes raisons ou pas, avec des bons résultats ou pas, j'attends que le secteur dans son ensemble se dise que c'est plus possible d'avoir un catalogue aussi blanc. Et aussi hétéro.
Parce que pour l'instant, c'est vraiment... on est dans les années... 90 pour l'instant, encore là-dedans. Pour vous, est-ce que la littérature jeunesse engagée, ça reste niche ou vous pensez que ça commence à se développer un peu quand même auprès du grand public?
Alors, des structures engagées, il y en a toujours eu. Et puis, pour l'édition jeunesse en particulier, l'édition jeunesse, comme on la connaît aujourd'hui, elle a commencé par un engagement. En gros, c'est ce qu'on appelle le mai 68 des enfants. Il y a eu et un essor économique et une reconsidération de ce qu'on considérait être l'enfant. Et il y a des structures engagées qui sont lancées, comme Le Sourire qui mord, comme Du côté des petites filles. Et c'est à partir de là où vraiment on a commencé à avoir des structures éditoriales engagées. Ça fait 50 ans qu'il y a des structures éditoriales engagées, donc ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière le mot engagement. Parce qu'il y a des structures, par exemple, Talent Haut, aujourd'hui... la directrice, elle est co-directrice du syndicat national des éditeurs. Elle n'est plus du tout à la marge du secteur. Ça reste une structure engagée. Donc ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière le mot engagement, qu'est-ce qu'on met derrière le mot indépendance. Mais des structures indépendantes et engagées, il y en a toujours eu, il y en a encore. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, celles qui sont le plus à la marge, c'est des structures antiracistes. Là où celles qui étaient à la marge à la fin du XXe siècle, c'était surtout des structures antisexistes. Mmh.
Donc aujourd'hui, l'antiraciste est le nouveau antisexiste et ça reste très marginal pour le moment.
On a le temps pour une dernière question. Et comme Noël approche, on voulait vous demander, Sarah Galam, quelques recommandations de livres jeunesse qui vous semblent incontournables et qu'on aimerait offrir aux enfants autour de nous.
Devant nos tontons, tout rouge.
Alors, le plus beau cadeau de Noël, il était une autre fois aux éditions de Compas pour du beurre. C'est des réécritures de contes féministes et queer. Et ce que j'aime beaucoup dans ces réécritures-là, c'est que c'est pas simplement un renversement, c'est pas simplement... on renverse pas simplement les rôles genrés. Il y a une réécriture féministe, même dans la structure narrative des contes, où par exemple, il y en a un, c'est Cendrillon, c'est une petite fille trans, et elle n'a pas le droit d'aller au bal parce qu'elle serait pas une vraie petite fille. Et c'est ses belles-sœurs qui l'emmènent au bal derrière le dos des parents.
Mmh, et super
lecture. Du coup, il n'y a plus de rivalité, au contraire, il y a une belle sororité. Où la belle et la bête, la bête, elle n'a pas dévoré de femme. La bête, c'est une femme qui a refusé un mariage forcé et qui accepte dans son manoir toutes les femmes qui échappent à des situations similaires. Et du coup, la belle, elle veut tuer la bête pour ne pas avoir à marier un homme. Et puis, elle découvre que, en fait, c'est un espèce de béguinage avec que des femmes qui étudient et qui sont... dans leur petit manoir. Et du coup, elle a plus besoin de tuer la bête, mais elle tombe un peu amoureuse et elle l'embrasse.
La bête ?
Oui.
Trop bien.
Ah oui, la belle et la bête finissent ensemble quand même.
Ok, trop chouette.
Qu'est-ce que je pourrais... Le musée mal rangé qui vient de sortir chez Shed Publishing, qui pose la question des institutions, des musées, et de qui a sa place dans ces institutions-là. Mmh. C'est très mignon, c'est du coup dans la classe. Et ça a été écrit par une prof du 93 qui parle depuis son point de vue d'enseignante. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des enfants qui posent des questions de cet ordre-là? Comment travailler de façon antiraciste avec des petits humains?
Ok, c'est bien noté. Marion, t'as noté pour Noël?
J'ai tout noté pour Noël. Et j'ai aussi noté pour notre page Instagram. Ouais. On mettra toutes les références et quelques autres aussi qu'on a notées de toute l'émission.
Bah, je crois que c'est bientôt. C'est la fin, là, je crois.
C'est la fin. J'ai ma liste de Noël, donc ça, c'est bien.
Merci de m'avoir invité.
Merci à toi, merci à vous. Voilà, je tutoyais, vous voyez, c'est la fin de l'émission, j'en fiche. Marion, je te laisse conclure.
Merci, Pauline, et merci, Sarah, d'avoir accepté notre invitation. On était vraiment très heureuses de vous avoir avec nous. On rappelle que les ouvrages de votre collection J'aimerais t'y voir aux éditions On compte pas pour du beurre sont disponibles dans toutes les bonnes librairies et que vous serez au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil du 29 novembre au 2 décembre prochain. Les dates sont à retrouver sur le site de On compte pas pour du beurre.